Salut à toutes, salut à tous, c'est FPC sur Radio Club Poker, en compagnie encore, comme d'habitude, de mon acolyte Manu B.
Salut tout le monde.
Ça va Manu?
Ça roule et toi François?
Bon bah écoute, ça va, c'est bientôt la fin de l'année, on se prépare pour Noël. Alors comme on se prépare pour Noël, on vous a amené un gros cadeau aujourd'hui. On a deux invités comme d'habitude et un invité tout à fait exceptionnel parce que sans lui, peut-être que le poker ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui en France. C'est vraiment quelqu'un qui nous a ramené le poker dans ses valises après un voyage aux États-Unis. Il a trouvé que c'était sympa. Il a même dans la communauté des joueurs de poker le titre de King. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Bruno King Fitouzi. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir. On reviendra sur ça, c'est peut-être un poil exagéré quand même.
Mais alors, écoute,
c'est sympa en tout cas, merci beaucoup. Non. Belle introduction. Je pourrais faire écouter ça à mes amis.
Tu sais, nous, on aime toujours mettre à l'aise nos...
Voilà, ben, ça y est, je suis à l'aise.
Ouais, ça commence à cartonner d'ici 15-20 minutes.
D'accord, alors. Normalement, c'est...
Je suis prêt donc à encaisser. Maintenant, écoute, tu m'as mis à l'aise. Tout
voilà,
va bien.
Parfait. Un autre invité, pas des moindres aussi, puisque c'est un des membres historiques du club poker, quelqu'un qui est là depuis très 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 longtemps, Xavier sur le forum, Xavier Malandran. Salut Xavier.
Salut tout le monde.
Alors, c'est un plaisir de te recevoir. Ça nous fait plaisir. La semaine dernière, on avait une petite voix de soleil avec Voy qui était là. Ouais. Cette semaine, c'est toi qui prends la voix de soleil.
Voilà.
Hein, donc, on a le plaisir de t'avoir.
Bon accent du sud.
Bon accent du sud, absolument.
Et je crois que c'était nous qui avions un accent.
D'après Voy,
c'est nous qui avons un accent.
Fonction de la région où tu te trouves, c'est toi qui as l'accent en général.
D'accord. Je suis toujours pas sûr de comprendre comment ça marche, mais c'est pas grave.
Si tu veux un jour,
on enchaîne.
On va enchaîner. Mais une petite anecdote quand même. Un jour, j'arrive en Belgique, comme ça, je parle avec ma voix. Un mec me dit au comptoir, vous êtes français. Alors je lui dis oui. Et il me dit, moi aussi, je suis français, mais j'ai perdu l'accent depuis. Hein. C'était en Belgique. Il avait un accent belge extraordinaire. Comme d'habitude, nos différentes rubriques qui vont arriver après les interviews et l'interview notamment de Bruno, les rubriques habituelles. Les interviews, l'actualité du poker. Ce soir, pour l'actualité du poker, on aura un événement sympa. On va faire un direct avec Benjo qui nous racontera comment ça se passe sur le terrain. La journée 1 a été un petit peu difficile pour les Français qui étaient
Benjo,
en place.
Benjo qui est à Prague, il faut le rappeler hein, pour le péter.
Oui, Benjo qui est à Prague. Donc on sera en direct avec Benjo depuis Prague qui nous racontera un petit peu le péter en direct. Ensuite, les news du club poker et des membres, la main du jour, un bouquin également dont on parlera qui sort il y a peu, hein, je crois que...
Ah bon?
Oui, tu connais pas, non?
Si.
Bon, et puis on enchaînera sur notre questionnaire de Proust adapté au poker, et enfin, le grand moment habituel, Manu?
Bah le concours de Poker Face.
Voilà, le concours de Poker Face.
Très radiophonique. Bruno se demande.
Parce qu'en fait, j'ai écouté quelques émissions de radio parce que c'était. Non, ça m'intéressait vraiment. Mais le problème, c'est que j'ai jamais eu le temps d'aller jusqu'au bout. Donc
ça reste une surprise pour
voilà,
toi.
C'est une surprise pour moi.
Eh ben, écoute, tu verras. C'est un moment sympa en général. On le regrette pas. Bruno, le poker, on en a parlé. Comme je l'ai dit tout à l'heure en intro, tu fais partie de ceux qui ont vraiment œuvré pour la promotion du poker en France. Mais avant de faire du poker, tu faisais quoi? A priori, tu étais architecte, je crois. Hein.
J'ai fait des études d'architecture. J'ai terminé mon troisième cycle et puis il fallait que je passe le diplôme des PLG. Tu sais, tu dois présenter un truc, etc. Et ça, je te dis la vérité, j'ai pas fait quoi, parce que c'était déjà plus mon truc quoi. C'est des longues études. Au bout de 5-6 ans, je savais que c'était pas mon truc. Et puis j'ai rencontré des amis que j'avais un peu perdu de vue pendant mes années d'études et qui étaient dans la musique. Qui avait monté une boîte d'édition, ils éditaient principalement des musiciens africains, principalement Fela, encore aujourd'hui Femi, je sais pas si les auditeurs peuvent connaître. Et donc il y avait Maurice Kanté, il y avait toute cette bande et tout, et puis ça m'a beaucoup plu et donc je me suis lancé dans cette activité. Et très vite, on a monté une maison de disques qui pouvait paraître une gageure. Aujourd'hui, sans doute même plus même encore qu'à l'époque. Et on a, pendant 4 ans, dirigé donc ces éditions musicales. On a distribué, fait de la promotion et tout. C'était passionnant. On a enregistré, produit plein de trucs. C'était génial. Mais pendant tout ce temps, il y avait un... Il y avait un fil conducteur, c'était le poker. Hein. Je joue, j'ai bien aimé les jeux dès le départ, dès que j'étais jeune. Hein. Ça a commencé avec le Monopoly. On est passé par un tas de jeux comme ça, le tarot, les échecs. J'en passe et des meilleurs. Et puis bon, bah, très vite le poker a pris le dessus. Et pendant toute cette période, je jouais au poker.
Mais tu joues au poker
à cette époque. Mais alors bon, le poker n'est pas arrivé en France avec l'ouverture du club de poker à l'Aviation Club de France. Le poker moderne est arrivé en France à cette époque. Le poker tel qu'il se pratique à peu de choses près aujourd'hui, avec des tournois, avec des règles extrêmement strictes, quoi qu'on en dise, une manière internationale d'y jouer. Mais avant, bien avant, des milliers de gens à travers la France jouaient au poker. Faut rappeler à ceux qui ne le savent pas que j'ai bientôt 50 ans, donc on parle d'il y a 30 ans approximativement à mon époque, mais les gens jouaient déjà même auparavant.
Là, j'étais pas né à l'époque.
Oui, c'est ça. Ouais. Et donc il y avait beaucoup de parties privées, enfin des parties qu'on peut appeler des parties bourgeoises, des parties d'amis, des parties des fois peut-être un peu plus sombres dans des arrière-salles de bistrot, mais ça existait.
Justement, je rebondis, c'est à l'époque c'était la mauvaise image du poker, on jouait au poker caché, enfin de manière cachée,
oui,
non.
Oui, absolument, oui, non, personne n'aimait dire qu'il jouait au poker ni auprès de ses amis, ni de sa famille, ni de son boulot. C'était une époque où on jouait à la maison, et ça concernait peut-être quelques milliers d'adeptes en France. Il n'y avait pas des jeunes à la fac qui faisaient des tournois de poker. Il n'y avait de toute façon déjà pas de tournois de poker. Le poker était joué totalement différemment.
C'était que du cash game à l'époque.
C'était que du cash game. Ce n'était que du poker fermé. On a commencé à voir dans les années 90 arriver quelques parties de Texas Hold'em, mais ça se jouait pas du tout comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de cartes brûlées. On jouait pas dans l'ordre l'ordre du bouton, enfin dans le sens des aiguilles d'une montre. C'était celui qui misait le dernier ou qui relançait le dernier qui devait parler ensuite. On n'avait pas le droit de réfléchir, de relire ses cartes. Et puis il y avait bien sûr ensuite tout ce qui concerne les parties privées, c'est-à-dire bon bah les problèmes de sécurité, la triche, les mauvais paiements, les gens qui perdent trop, j'en passe et des meilleurs.
Les gens qui veulent pas perdre.
Ça a pas beaucoup changé.
Qui veulent pas perdre, mais qui avaient peut-être les moyens de faire valoir le fait qu'il fallait continuer la partie et les rembourser un peu.
Non, c'est pas ça. Mais c'était que il y avait pas d'horaire, il y avait pas de fin de partie, il y avait pas de début de partie. Il fallait d'abord être invité. Quand on était un gagnant, ben on n'était plus invité. Donc c'était toujours très difficile quand on était un gagnant d'être invité dans des parties. Enfin bon, on va pas faire l'historique du poker, mais pendant ces années-là, il y avait en effet du poker, mais du poker fermé à la maison en général. Poker draw poker, poker high et nullo.
Et nullo, ouais. Ouais. Claude Cohen, qu'on a reçu il y a quelques temps, nous parlait justement des parties privées qu'il avait.
On est de la même génération.
Bienvenue sur Radio Nostalgie Poker.
Voilà. Radio Bleu.
Bon, donc par contre, quand je disais que tout à l'heure tu étais que le poker ne serait peut-être pas comme ça en France aujourd'hui. Alors, peut-être qu'il serait comme ça aujourd'hui, mais tu as été un de ceux qui a ramené des États-Unis, celui.
Ce qui s'est passé, c'est donc après avoir vendu ma société avec mes amis de musique, parce qu'à un moment donné, bon, on va pas non plus rentrer dans les détails, mais elle devenait trop grosse. Bon, on a vendu ça à la Fnac, passant sur les détails. Le poker avait pris déjà une place très importante dans ma vie, dans le temps que j'y passais et même dans ce que je gagnais déjà à l'époque. Donc, et puis j'étais toujours aussi passionné, voire plus. Et puis il y a eu une opportunité. J'avais un ami de longue date qui est un Américain et que je rencontrais chaque année, qu'on se voyait chaque année pendant le championnat du monde de backgammon qui avait lieu à Monaco à l'époque, puisque je jouais aussi backgammon en tant que professionnel. M'a proposé de venir leur joindre, lui et toute une bande de copains à Londres. Il s'est installé dans un immense appartement. Il y avait des joueurs qui aujourd'hui sont des gens connus, que vous connaissez peut-être pas parce que ils sont pas des stars du poker comme Negreanu ou Phil Ivey, ils sont un peu plus âgés pour ça. Il y avait des gens comme Paul McGrill pour le backgammon,
Paul McGrill est connu comme joueur, donc
on habitait ensemble. Il y avait Max Vobony, il y avait pas mal de joueurs comme ça, et donc on était une espèce de communauté de joueurs où pendant un an on passait nos jours et nos nuits à jouer, à parler de jeu, à analyser, à étudier le tout en anglais. C'est là que j'ai fait mes progrès en anglais. Je me suis mis à parler plus facilement. Et c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait donc en Angleterre un club qui s'appelait le Victoria, enfin c'est le Victoria Casino, ouais,
qui est toujours un bel endroit du poker.
Bien sûr, oui, mais qui était un des premiers en Europe dans lequel il y avait en effet du poker tel que je l'avais jamais vu, jamais rêvé.
Alors juste, je voudrais faire une aparté par rapport au Vic. Quand tu dis au Vic, c'est là où jouent les meilleurs joueurs, certainement il y a de grands joueurs européens, mais quand tu leur dis que tu viens de Paris, ils te demandent tous un truc: est-ce que vous jouez à la CF? Parce que j'y ai joué une fois, c'est vraiment trop génial, etc. L'image de la CF à Londres, notamment, ou alors dans toutes les salles de jeu, de toute façon, où on joue au poker, c'est quand même quelque chose d'internationalement connu, non?
Oui, c'est vrai que la particularité de l'aviation, parce que finalement, il y a donc 13 ans, hein, parce que ça a ouvert en 95, janvier 95, donc il y a un peu moins de 13 ans, on va dire 13 ans, ça n'existait pas, c'était rien, l'Aviation Club de France. Et puis c'est vrai que comparé aux grands casinos dans le monde ou même en Europe, bon, c'est très difficile pour un lieu qui a une douzaine de tables uniquement. Bon, c'est pas un truc évident, c'est même pas un casino, donc c'est un cercle de jeu, faut être membre. Donc d'arriver à amener l'Aviation Club de France au niveau de la connaissance du nom, de la réputation du club à travers le monde au bout de cette douzaine d'années, c'est vrai que c'est, je pense, une des choses qui me tient le plus à cœur, une des plus belles réussites, parce que c'est avoir mis Paris au centre du monde du poker, et bon, donc bien sûr à travers l'Aviation Club de France. Il n'y a pas un endroit, tu me disais tout à l'heure, quand tu vas jouer à Londres, les gens te demandent: mais est-ce que vous jouez à l'Aviation Club de France? Ça aussi, ça j'allais dire, excuse-moi, ça date presque un peu. Aujourd'hui, c'est tellement évident, si vous jouez à Paris, vous jouez à l'Aviation Club de France, quoi.
C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas qu'à l'Aviation Club de France,
vrai,
on peut jouer au poker
mais
à Paris.
On peut dire que, mais il n'y a qu'à l'Aviation Club de France où il y a des tournois internationaux, il n'y a qu'à l'Aviation Club de France où les joueurs étrangers vont jouer, il n'y a qu'à l'Aviation Club de France qu'on trouve la qualité des tournois qu'on y trouve. Et ça, je pense que personne ne peut dire le contraire, vraiment.
Non, c'est clair.
Bruno, parlons un peu de ta carrière de joueur et notamment tes performances récentes. Alors évidemment, tout le monde
ma performance récente.
Alors on peut amener la chose comme ça.
Bah, c'est-à-dire qu'elle ouais, occulte un peu les autres.
Un
là,
peu les autres. Donc ouais, deuxième au tournoi à 50 000 $, le Horse, au World Series à Las Vegas cette année. D'abord, bah, félicitations de la part,
merci,
de notre part et de la part du club poker.
Merci, c'est sympa.
Je sais pas si tu es,
sympa,
si tu es au courant.
Ça fait plaisir. On joue aussi un peu pour ça aussi.
Bah, je sais pas si tu es au courant, mais sur le forum, on t'a suivi pendant,
oui,
toute,
sûr,
la finale et ça a explosé, en fait, le record de fréquentation du site, hein, on peut le dire.
Si moi, j'ai été, c'est mieux. On peut pas s'empêcher, ouais, hein.
J'y étais, moi.
Ah oui, bah oui, bien sûr,
ouais,
tu étais là-bas.
Mais on peut pas s'empêcher de dire un peu. Oui. Ce que disait Manu sur le site, c'était de la folie.
Ouais.
Je pense sincèrement. Ça c'est Benjo nous a dit qu'il était présent également,
ouais, ouais,
ce soir-là, enfin
bien
ce
sûr,
soir-là, cette nuit-là, il sait plus vraiment quand c'était. Moi, je peux te dire qu'on était plus présent sur internet à suivre tous les événements qu'on pouvait choper sur tous les sites qui faisaient de la couverture en direct. Dès qu'il y avait un qui avait une info, il le mettait sur le site, etc. On est monté à des pics de consultation mais gigantesques. Si tu
c'est
avais
génial,
eu si tu je te garantis, on avait l'impression d'être tous ensemble. Dès qu'il y en avait un qui postait, il y en a un qui répondait: "Oh, t'as vu, il a fait ci, il a fait ça." On s'envoyait des SMS de
le sujet dédié au tournoi donc du Horse auquel tu fais deuxième. Il y a eu 1700 messages de postés en quoi, en le temps du tournoi, c'est-à-dire qu'il a duré 5 jours, quelque chose comme ça.
Non mais je les ai vus parce
et
que tu sais quand tu rentres le soir que t'as joué pendant 12 ou 14 heures et que bon je sortais pas, donc évidemment en rentrant je passe par la salle de poker du Bellagio parce que quand je suis à Las Vegas je reste toujours au Bellagio à l'hôtel, et donc je passais par la salle de poker pour dire bonjour à quelques potes, serrer quelques mains, et très vite j'allais dans ma chambre pour me détendre, essayer de décompresser, puis surtout il faut dormir quand même, donc c'est difficile de dormir aussi toujours, c'est pas évident en plus avec le décalage, je venais juste d'arriver quand même à Las Vegas. Donc bah oui, je consulte les sites internet, j'ai pas de honte à le dire du tout, et je regardais les posts, ça faisait vraiment, ça faisait super plaisir, ça fait chaud au cœur.
Imagine que pendant ta table finale, il y a eu pendant le moment de folie, il y avait 300 requêtes à la seconde. C'est-à-dire qu'il y avait 300 mecs à la seconde qui appuyaient soit qui appuyaient sur F5. Les vendeurs de claviers ont fait fortune parce que la touche F5 a explosé. Soit qui envoyaient quelque chose, etc. C'est extraordinaire.
Mon téléphone a explosé aussi.
Mais moi, je peux te garantir, on était là, on bouillait et puis on a suivi. L'apothéose à un moment où tu t'es retrouvé, on va parler de moments douloureux maintenant, quand même.
Non,
tu t'es retrouvé avec 12 millions de jetons, à un moment.
12, oui, c'est ça.
Ouais, 11 millions, 9. 11, 9.
10 et demi, je crois. 10 et demi, 11. Oui, 10, oui.
Ah, dans ces eaux-là.
En fait, globalement.
On n'est pas un million près, hein.
Et d'ailleurs, tu l'as montré avec ta deuxième place.
ouais.
Bon, donc, tu étais à 12 millions de chips. On était tous là, on se disait bon ça y est,
c'est terminé.
Le bracelet il est chez nous
et puis ouais, beaucoup de gens l'ont pensé.
On se disait tiens il va y avoir un grand horse gratuit en free roll à la CF pour le retour de Bruno. On était
le lendemain matin le lendemain après-midi parce que comme on a joué jusqu'à j'ai oublié 7-8 heures le matin, enfin c'était un truc de dingue. Quand le lendemain je croisais des gens dans le casino, ils me félicitaient, ils pensaient que j'avais gagné, ils étaient partis au moment où oui j'avais 12 millions. Vous voyez pas comment les deux autres allaient remonter. J'étais en plein rush, je dominais la table de la tête et des épaules. C'était effroyable. Ils savaient plus où ils habitaient. Mais bon, voilà.
Moi, ce jour-là,
c'est ça le poker.
Ce jour-là, il y a des gens qui sont couchés le soir et qui sont arrivés le matin pour regarder. Il y avait eu 50 pages rajoutées dans le post. C'était impressionnant. Moi, je discutais à distance avec Fougan qui était à Vegas à ce moment-là. Et c'est moi qui lui donnais depuis Paris parce qu'il avait pas vu. Il dormait à ce moment-là. Là, il n'avait pas vu tes résultats. Il dit mais où il en est. Tout le monde, vraiment tout le monde a pensé que tu allais gagner ce truc-là. Et tout d'un coup, boum.
Ça va être très court. Regarde, ça va être très 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 court. Je me souviens plus qu'est-ce que c'était les limites. Ça devait être
cher.
Ah oui, non, mais cher, c'est sûr. Ça devait être 200 000, 400 000 ou 250 000, 500 000. Un truc comme ça. Ça devait être 250 000, 500 000 à peu près, avec donc des blindes, je sais plus, 100, 200 000. Enfin, un truc comme ça. Chaque coup, jouer à plein. Quand je dis jouer à plein, c'est pas 4 lances avant le flop, sur le flop, etc. Non, jouer à plein, quand on joue sérieusement un tournoi de cette taille et qu'il y a autant de pression, c'est, on va dire, peut-être une relance, peut-être une sur-relance avant le flop, et puis en général, quelque chose qui est bet call, et éventuellement un bet raise qui passe, ou un truc comme ça. Donc un coup à plein, ça fait à peu près 4 millions. Donc on est à 12, j'ai 12 millions, et il y a qu'un, il y a, en fait, c'est pour ça que j'ai pas 12 millions, parce que je sais que...
T'es juste en dessous de 12 millions.
Je dois avoir 11 à peu près, ouais. Et John Hansen a quelque chose comme...
Il nous sort un coup d'enfant.
À peu près 3 millions, 2 millions et demi, 3 millions, et Freddy dit bah un truc genre 1,5 million, 2 millions à peu près. Donc je suis évidemment très très gros chip leader, mais un coup ça fait 4 millions. Voilà, un coup entier ça fait allez entre 3 et 4 millions un coup entier. Donc tu mets entre 1,5 million et 2 millions dans un coup. Et donc il y a un break au moment où je suis énorme chip leader, donc on s'arrête, je sors dehors fumer une cigarette,
c'est
je reviens.
C'est ce que Benjo nous l'avait posté, voilà. Ça, il a dit je l'emmène fumer une cigarette.
Voilà, là on va discuter 10 minutes, il y a Benjo qui arrive, je parle avec Benjo, etc. 5 minutes, bon hop, on reprend à table, et une des premières mains, on est au Texas Hold'em, je sais pas si c'est la première, deuxième, troisième ou quatrième, j'ai As-Roi de la même couleur, on la voit pas d'ailleurs sur les vidéos, hein, on la verra pas. J'ai As-Roi de la même couleur et je crois que je suis en grosse blinde, et donc il y a John Hanson qui est derrière moi qui relance. Je fais 3 bêtes, il me fait 4 bêtes, je colle les 4 bêtes.
De toute façon,
Le flop vient, j'ai oublié, mais inintéressant, un truc n'importe quoi, 2-5-7, un truc comme ça. Je check parce que maintenant je sais pas trop, il peut avoir une paire en main, bien évidemment, s'il a pas de paire, je suis devant, mais sinon il peut avoir une paire, il peut avoir touché le flop aussi, hein, s'il a As 2,
je vous rappelle qu'on est en limite, hein, on est en limite.
Et là il mise, je le paye, parce que ma main peut gagner, puis c'est John Hanson aussi, hein, c'est pas Freddy Deep, donc il est très très live. Moi j'ai joué beaucoup avec John Hanson en mix game, limite, pendant, enfin, ça fait 4-5 ans que je joue régulièrement avec John Hanson en limite. High Limit, donc très cher. Donc je le connais très 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 bien. On se connaît bien, on est potes. D'ailleurs, c'est un mec très 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 sympa, qui a beaucoup d'argent. Il a réussi à la bourse à Londres. Donc il joue vraiment. C'est un amateur qui joue, mais pour se faire plaisir et qui joue bien, très bien même. Et donc il peut avoir n'importe quoi, je le sais, je connais John Hanson, donc je le paye avec As-Roi, et puis mise à la quatrième, je le paye avec As-Roi, et à la dernière il y a sa paire, donc il n'y a pas tant de possibilités que ça, il n'y a pas de dame, il n'y a pas de valet, il n'y a pas de 10, il n'y a pas de truc comme ça, et à la fin il mise, et c'est là que j'hésite très 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 longtemps, parce que comme je l'ai souvent expliqué, aux limites la victoire et la défaite d'une manière générale, ça se joue à, je parle quand on a déjà le reste, quand on sait déjà jouer,
ouais,
hein.
Ouais, ouais.
Ça se joue souvent à une mise qu'on ne paye pas à la fin,
dernière,
ou
à
une mise qu'on fait en value bet. Ça se joue à quelques mises, le limite, tu sais.
Ouais.
Et donc là, c'est une grande question pour moi de savoir, mais il a tapis.
Tu es obligé de le payer. Là,
voilà, il a tapis. Il me fait tapis ces derniers, je sais pas, 400 000 ou n'importe quoi. J'ai As-Roi, il y a rien sur le flop. J'ai toujours pas d'informations sur sa main. Donc je décide de le payer et il a 2-8. Donc il gagne le coup et il passe à 6 millions. Et
oui,
quelques coups plus tard, encore plus rapidement, donc quelques coups plus tard, je sais pas, on passe donc en Romain Hello et Freddy dit bah donc genre 1,5 million, 2 millions, et donc dans une situation semblable, moi je suis descendu donc là dans à ce coup-là à 8 millions, on est bien d'accord. Et là j'ai un coup avec Freddy Dib où sur le flop, c'est en Hello, je me retrouve avec le deuxième nulot. Père max et tirage quinte. Donc j'attaque, il me renvoie, je paye, lap, et il vient runner flush et nulot max. Donc il vient sur les deux dernières cartes en backdoor, il fait flush à cœur et nulot max sur ma main et il double, il se retrouve avec 5 millions et maintenant nous voilà tous les trois avec 5 millions. C'est deux coups,
ouais.
Deux coups tout
bon,
simplement.
Puis après une fois qu'on est à égalité,
Freddy Dib, après on a joué très longtemps après. Ça a duré genre 3 heures à peu près où on montait, on descendait mais sans faire d'écart gigantesque. John Hanson s'est sorti 2-3 fois de situations rocambolesques et acrobatiques avec quelques cartes miraculeuses contre Freddy Dib, toujours qu'il l'a mis à tapis plusieurs fois mais avec la meilleure main largement, et il s'en est sorti, d'où l'énervement de Freddy Dib qu'on verra peut-être dans les émissions. Il dit de lui qu'il vraiment c'est
et
pas un bon
pas
joueur.
Jouer. Non, mais
bon, mais c'est difficile.
Mais
toujours
il
dire
le
ça.
Dit d'ailleurs. On l'a vu sur le site de Fabrice Soulier où on le voit un petit peu en
oui,
vidéo
voilà,
avec
voilà.
Lui.
Et à un moment donné, bon bah il le bat dans une main, voilà. Et donc lui il double et il se retrouve avec 11 millions et moi 4 dans le tête à tête final. Et là on joue demain et je perds demain terrible, c'est-à-dire pas un bad beat dans le sens où Freddy Dib n'avait pas rentré dans le coup, il était inférieur ou pas ce genre de choses. J'ai pas été outdraw, on m'a pas fait de suck out, rien de tout ça, simplement j'ai des très grosses mains, l'une en stud et l'une en stud à Hello. Et je les complète pas. Des mains énormes où je joue genre 25 cartes pour faire le high, le low et 12 cartes où je scoop le coup. Et je touche aucune de ces deux mains et je voilà comment
ça
termine
fini.
Le tournoi. Il y a 5 millions par coup.
Zat Poker ouais. Fatigué quand même, je pense.
Oui, très très fatigué à la fin des 5 jours. Ouais. Très fatigué, mais en revanche pas de fatigue au milieu. C'est juste la pression qui s'en va.
L'adrénaline qui te tient.
Ouais, ouais.
Est-ce que c'est l'adrénaline qui te tient si t'es habillé justement à ce moment-là ?
Je sais pas. C'est un truc très bizarre. À chaque fois que j'ai fait un résultat en tournoi. Que ce soit le tête-à-tête que j'ai gagné contre un Mario Slim en 2001, que ce soit ma 15e place dans le main event en 2003, quand j'ai fini 8e du 25 000 du Bellagio en 2004, je crois, je sais plus l'année exacte. Et j'ai toujours eu un truc très étrange, jamais aucune pression. C'est-à-dire, j'ai jamais joué en me disant il faut que je joue le mieux possible parce que je peux gagner, parce que je sens que ça s'approche, parce que c'est incroyable ce qui m'arrive. J'ai jamais eu de difficulté pour dormir. J'ai toujours été sérieux, bien sûr. Hein. Je veux dire, bon, pas non plus un imbécile. À mon âge, on a appris à ne pas laisser passer les quelques occasions que la vie vous met sur votre chemin. Hein. De temps en temps, il y a un petit truc là qui, c'est comme dans les jeux vidéo. De temps en temps, il y a un truc à prendre. Faut pas lâcher l'occasion, faut pas rater son coup. Donc oui, j'étais concentré, mais j'ai jamais eu de pression, j'ai jamais eu de tension, j'ai jamais eu tout ça. J'étais vraiment très très décontracté. J'ai jamais pensé, par exemple, à aucun moment que j'allais gagner
ou que j'allais être deuxième, ou que j'allais être huitième, ou à l'argent, ou à quoi que ce soit. Jamais, à aucun moment. J'ai juste joué avec le grand, grand plaisir de jouer. C'est des chances incroyables.
Il y a une question qui arrive sur le forum à ce moment-là, mais tu viens d'y répondre. C'est est-ce que t'as eu un moment comme un joueur de tennis la peur de gagner, quoi?
Non, jamais. Non.
Et le
fait.
J'aurais
pu, hein, mais je connais pas ce sentiment. Alors d'autres peuvent l'avoir, mais moi je connais pas
le
sentiment.
Le fait de te retrouver face à Freddy Deep, qui est quelqu'un que tu connais plutôt bien.
Très bien, ouais, c'est un très bon ami.
C'est un
aussi.
Très bon pote.
Ouais, très proche.
Est-ce que t'as pas levé le pied un peu?
Sans doute un petit peu, mais sans doute lui aussi.
Alors, oui. Parce que il y a quelques
c'est très
temps.
Amical le tête-à-tête et on a joué nos mains tout à fait normalement, sans aucune ni agressivité ni passivité. Ça s'est passé de manière très 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 naturelle.
Alexis Boeuf, dans son livre sur le poker, dit à un moment « Ne faites jamais de scrupules, les joueurs de poker n'en font jamais ». Est-ce que tu aurais fait un scrupule à un moment? Tu l'aurais pas pris? Tu l'aurais pas lancé?
Non. Ah, pas du tout. Ah non, ça jamais, ça. Bon, non, mais il y a...
François, voyons.
Alors...
On va continuer dans les questions.
Il y a un titre gigantesque quand même à gagner. Il y a $1 million aussi.
De différence.
Et je sais que... Tu as garde d'occasion à cette époque. Aujourd'hui, c'est très 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 difficile pour un joueur d'arriver dans une finale de tournoi.
Écoute, ça a été exceptionnel. Ça va m'amener deux autres choses par rapport à ça.
Mais laisse-moi parler.
Non. Attends, tu.
Qu'est-ce qu'il parle, ce mec?
Je suis entouré des deux hommes les plus bavards que j'ai jamais vus
de ces environs.
Je sais pas comment on va faire une émission à 1h30.
De toute façon, on a vu.
On oublie l'une heure.
On a vu.
Et par exemple, plus on parle beaucoup.
Alors, on a vu.
Tranquille, profitez-en ce soir.
On a vu avec la technique, on va faire deux émissions. Aujourd'hui, c'est deux émissions. Comme il y aura une émission entre Noël et le jour de l'an qui ne sera pas enregistrée, on aura une deuxième émission.
Est-ce que je touche double cachet ou pas?
Bien sûr, mais
bon,
alors,
d'accord. Alors, je suis d'accord.
On est absolument d'accord. Alors, on va pas te poser toutes ces questions parce que franchement, il y en a excessivement. Il y a quelques-unes qu'on va te poser quand même après. Mais je voudrais donner la parole.
Mais de vive voix, c'est bon, ça me va.
Je voudrais les donner à.
Merci.
Parce qu'on dit que les gens du Sud parle, mais lui il a pas beaucoup parlé.
Ah, mais moi je suis du Sud aussi, je suis de Perpignan.
Explique alors.
Mais comme ton belge, là, j'ai perdu mon accent.
Alors Xavier, de Perpignan.
Xavier, c'est à toi.
Mias. Bien bonjour à tout le monde. Hein. Voilà,
salut Xavier. Alors.
Combien il me reste moi?
Il doit rester 30 secondes.
C'est bon, allez-y vite alors.
Donc Xavier, tu es l'un des premiers membres du club poker. Alors ton inscription au club, elle date de quand?
2003, je crois, juillet 2003.
Juillet 2003. Donc ça, c'était une des toutes premières versions du site. Je crois que Laurent me confirme ça d'un hochement de tête. Voilà, c'est ça. Et donc, à l'époque, tu jouais encore?
Je jouais au fermé.
Ah, t'étais un joueur de fermé à la base.
Ouais, okay. Un joueur de fermé. Et j'étais allé à Vegas en 2001, je crois. Et j'étais un fou des bandits manchots à l'époque.
D'accord.
Et quand j'étais arrivé à Vegas, j'étais au Vénétien et j'avais vu ces tables de poker, mais je comprenais rien du tout. Okay. Je me demandais ce que c'était comme jeu, tu vois. J'ai dit, c'est pas une belote, c'est pas un tarot, mais. Et on me disait, c'est le poker. J'ai pas joué parce que j'ai rien compris. Je suis rentré, je me suis un peu intéressé à ça et j'avais tapé poker dans Google. Et je suis tombé sur le site de Laurent, Club Poker. Et j'avais eu contact avec lui, je crois, et il me dit, eh ben écoute, on fait un tournoi à la CF le dimanche une fois par mois. En début, monte si ça t'intéresse. Mais j'ai pris un billet d'avion, je suis monté.
Wow.
Et j'ai joué, avant de monter 5 jours sur PokerStars pour comprendre.
Ça, c'est de la motivation. C'était l'époque où le tournoi du club poker était encore à 60€, je crois.
50.
50 même? Ouais.
Je crois que c'était 50, ouais. C'était 50€, ouais.
Mais c'était déjà des euros.
Oui, c'est déjà les euros.
Parce que le tournoi du club poker, c'était en francs avant, non? On était.
Ah non, ça a commencé à quelle année, le premier tournoi club poker? 2002, peut-être? 2003? Bon, on a d'accord. Laurent, je vous fais les images là parce que Laurent est derrière et on le voit pas, mais c'était quelle année, Laurent, s'il te plaît? Réponds, toi, la mémoire vivante.
C'était en 2003.
2003, d'accord.
Donc c'était déjà le début.
Donc tu prends l'avion carrément.
Je prends l'avion
pour venir faire le tournoi du club poker à 50 euros.
Voilà, 50 euros. Voilà, et je tombe, je me rappellerai toujours sur Serge Kramer.
Oui.
Caméraire.
Une des figures emblématiques du poker à la ZF.
Et je parle un petit peu de 2 minutes avec lui, et puis je dis voilà, je sais pas trop jouer. Il me dit, il m'explique un peu, les as c'est important. Voilà, et puis t'as 5
c'est
cartes.
Vrai que c'est important les as.
Ouais, ouais, ouais. Il me dit c'est important. Et
sauf au nulot.
T'as 5 cartes et ce qu'il y a, c'est pas comme le fermé, il y a 4 mises. Et il me dit c'est différent, quoi, voilà. Et,
allez, bonne chance.
Et je tombe à la table à Loïc, Sabat.
D'accord.
Et qui me dit c'est toi le canon. Et je fais ouais, ben je dis voilà, ben bon, il m'explique un petit peu aussi. Et je fais le tournoi et je finis 3e, je crois. Ou 4e.
D'accord. Et c'est un tournoi dans lequel t'as eu pas mal de succès par la suite encore, il me semble.
Oui, oui, oui. J'ai su monter à la première série des, je crois, des WPT. C'était la deuxième série, je crois. 2003, non?
2004.
2004, okay. Je fais deux tournois. Je fais le 500 Polymite. Mm-hmm. Et je fais le 500 Oma Hilo.
D'accord.
Voilà, je finis 3e au 500 Oma Hilo. Et 4e au Polymite, je crois.
Ok, et plus récemment, t'as une perf
au Palm Beach, ouais, j'ai voilà. Fini 3e, pas 4e, comme je vois sur la feuille. Voilà, mais bon, c'était...
c'est dans le cadre d'un deal à 4, donc quelque part, t'es voilà, arrivé pratiquement au bout, quoi.
Voilà, ouais, ouais. On a dealé à 4, parce que vu les sommes qu'il y avait pour les deux premiers, c'était bien équitable de dealer à 4, ce tournoi, qui est... on a bien été accueillis, c'était sympa de jouer un tournoi à 1000 euros avec 10 000 jetons. Voilà, pendant 3 jours, c'était sympa.
Bon, et l'organisation, sympa, l'accueil
C'était super sympa, parce que le premier jour, les croupiers, c'était des croupiers de cash game. Ils avaient une manie de prendre tous les pions en pile, de les ranger couleur par couleur, et on leur a expliqué pendant des heures et des heures, ça sert à rien, il faut tout prendre d'un coup, il faut pas compter. Limite, s'ils comptaient les pions, quoi. Mais après, ils se sont mis dans le coup, quoi. C'était sympa, quoi.
Alors, quand on dit les pions.
Oui, c'est
ouais,
ce
pions, ouais. Comme on dit boîte pour dire all-in, nous, hein.
Bah,
ouais,
on dit un peu ça à Paris,
on dirait à Paris.
Ouais, ouais, voilà. Et c'était. Mais j'avais. Ce que je m'avais plus, c'était la première fois que j'étais monté à la CF, il n'y avait pas de table de Texas Hold'em.
Ouais, du dealer choice surtout.
J'ai une petite anecdote à raconter. Et, alors, je m'étais fait marquer et j'ai dit, ben c'est quoi? C'était à 250 dealer choice ou 200 à l'époque. C'était 200 et. Je crois que je m'assois, le premier coup, c'est un coup d'Omar. Et j'ouvre la main, j'ai 3 valets. Moi, j'arrivais du fermé, tu vois.
Je devine la suite.
J'ai 3 valets et je rentre dans le coup et il arrive un valet au flop. Je dis, oh,
carré, c'est bon.
Carré.
J'ai dit là. C'est grand.
Et oui, je savais pas.
C'est génial.
Et j'ai dit, tiens, ça commence bien ici. Hein. J'ai dit, et puis tout le monde, j'entends pote. Puis je dis.
Les dollars dans les yeux.
Et moi je regarde le croupier, j'y fais c'est quoi pote. Et le croupier il me dit c'est il m'explique il faut ça multiplie les mises et tout, là j'ai fait là c'est trop compliqué pour moi, hein.
Là, je dis pote aussi donc.
De toute façon il me dit là il faut tout mettre ce que vous avez, alors c'est pas il me dit pote et moi je disais pute, il me disait pote pas pute. Parce que moi, quand ils disent tous pote, alors j'y fais pute. Non, il me dit c'est pote. Mais de toute façon, il me dit il faut tout mettre.
Ok.
Alors boîte,
j'y fais tout. Et tout le monde découvre. Alors, on arrive à la dernière, parce que j'entends River. J'ai dit c'est quoi ces noms et tout. Et alors, j'entends full max. Il y en a un qui tourne, je crois. Un truc comme ça. Et puis moi, je dis carré. Et il y a tout le monde qui se lève à la table. Il y avait Robert Cohen, je crois, à la table. Oui, il était à côté de moi et c'est lui qui gagne le coup. Il me dit t'as carré, mais c'est magnifique. Tout le monde sait, il me dit mais je sais pas où t'as carré. J'y fais, et moi je tournais 3 valets comme ça, voilà, carré de valets. Et là c'est là qu'ils m'ont expliqué l'Omar, que ça marchait à 2 cartes.
Et là ils l'ont fait boire encore.
Et ils t'ont dit reste à la table, on va t'expliquer, c'est ça?
Non, ils se sont bien régalés parce que c'est la carte bleue qui a beaucoup marché.
Après,
quoi,
et après ils t'ont dit est-ce que t'as un peu d'argent sur toi?
Mais voilà, tout à fait.
On va t'apprendre un petit peu.
Ils sont beaux,
elle est un
canons,
petit peu fondue la carte. Alors, ce jour-là.
Alors ton prochain tournoi à la CF?
Le prochain tournoi à la CF, je sais pas du tout. Je sais pas encore. Je voulais faire ce soir le 1000.
Ah, mais tu l'as pas fait.
Voilà. Ça me faisait peu plaisir de venir avec vous, alors j'ai préféré venir ici.
Mais surtout que t'avais du temps de parole, donc.
Voilà, oui, je sais que. Voilà, en plus, j'ai la montre en face, alors je vois que c'est comme qui tourne. Hein.
Alors, sinon, Sinon, dans la vie, t'es coiffeur, je crois.
Oui, voilà.
C'est ça.
Alors, il y a une question sur le forum.
Hein. Oui, tout à fait. Une question, je crois, qui
moi,
qui
parle pas vraiment de poker. Questions.
C'est une question qui parle pas vraiment de poker, mais qui est une question qu'on se pose tous à propos de notre coiffeur. Est-ce que tu coupes tes propres cheveux, en fait?
Ça arrive.
Ça t'arrive.
Ouais, d'accord. Parce qu'avec ma mère, on n'est pas trop d'accord. Okay. Voilà, parce que moi, quand j'y coupe les cheveux, j'y coupe trop court, et quand elle me les coupe, elle les coupe pas comme je veux. Alors, je me mets devant la gage, j'essaie de me les couper. Mais bon, des fois, ça fait des massacres. Hein. Je fais des coupes à la mode, voilà, sur moi.
Est-ce qu'il y a des expressions de poker qui sont typiques du Sud?
Je sais pas, moi.
Disais boîte, mais ça, c'est un peu approprié, j'ai l'impression aussi.
Si, à la place de dire pote, dire pute, c'est
oui, voilà, vite, ouais. C'est les putes de la croisette, voilà, peut-être. Je sais pas.
Non, il n'y a rien d'autre dans le sud.
Il y a le cap qui me fait fumer et le cool qui me fait la fumer.
Ouais.
Éventuellement, en catalan.
Non, mais je pense que c'est différent. Il y a quand même une grosse différence de mentalité entre le poker parisien et le poker du sud, je pense.
Bon, enfin, je pense que ça a tendance à se résorber, tout ça, ouais, parce que le poker, ça devient...
C'est-à-dire des grosses différences entre les Parisiens et les étrangers au début, et puis maintenant, ça a tendance à se... Tout le monde se retrouve dans les mêmes
trucs. Ça a été très dur de mettre les anciennes de chez nous au Texas, hein, parce que quand...
Et au pot limite.
Il y a que le Texas pour nos limites.
Mais ils jouent encore nos limites. Hein, ouais,
voilà, ils jouent nos limites, mais quand on a essayé, il y a 2 ans de ça, on leur disait, bon, vous savez, le poker fermé de cow-boy, tout ça.
Et ils jouent pas encore à l'OMA pour le moment.
Voilà, non, c'est trop compliqué. Ouais, parce que quand tu leur dis qu'ils ont 4-4 dans les mains, ils disent, non, moi, je vois 4 cœurs, c'est couleur. Voilà. Alors, on peut pas chercher à comprendre.
Il y a une grosse différence entre le poker dans le sud et le poker à Paris. C'est quand même le casa ou le pastis, quoi.
Ben, tu sais que les 2-3 endroits, moi, je connais des grosses parties qui sont privées à Cannes, qui étaient fermées, qui sont devenues du Texas, parce qu'il y a beaucoup de parties, tout le monde le sait très bien, et on essaye d'éliminer l'alcool quand même, parce que ça reste... il faut jouer quand même à jeun, parce qu'il y a des gens, quand ils sont sous l'emprise d'alcool, sont un peu...
Un peu dur
et un peu nerveux. Bon. Et après, on va dire, ouais, t'en as profité parce que vous en avez profité parce que vous m'avez saoulé.
Bah, il n'y a pas à boire non plus.
Ouais, mais bon.
Comme quoi, l'alcool est dangereux pour votre santé, voilà. Et pour la banqueroll.
3 verres et pas plus.
Ah, 3 verres et pas plus.
Voilà, bon. Ouais.
Il y a une autre question sur le forum qui vient pour toi. Quand est-ce qu'on te revoit un bébé ACF?
Eh ben, déjà, il faudrait qu'ils apprennent à jouer un peu au foot, parce qu'on faisait toujours un petit match de foot, et les Savoyards sont vraiment, vraiment trop mauvais. J'espère qu'ils vont entendre cette phrase, parce qu'ils vont m'allumer derrière. Surtout Thomas, il faudrait qu'il achète des chaussures et d'avoir les pieds carrés, quoi. Voilà. Mais autrement, c'est...
Ça chante, moi.
J'y suis allé 2 fois, et je suis désolé si je peux pas y aller, parce qu'ils savent très bien que j'ai un problème, c'est que le samedi, c'est une grosse journée pour moi de travail.
Tu fais quoi dans la vie?
Ouais, tu es coiffeur.
Bah oui,
je m'occupe que des hommes, mais que des hommes en coupure, pour couper les cheveux, hein, n'oublie pas ça. Et ils sont une sacrée équipe, je peux vous dire que si vous voulez vivre un bon moment d'ambiance de poker et rigoler, ils sont énormes.
Et donc, tu dois pas trop aimer le sketch qu'avait fait des proches sur les capilliculteurs?
Ça, je m'en rappelle plus.
Il avait
tu sais.
Pas entendu non, sur le sketch pas, sur les capilliculteurs. Bon, il était pas très sympa pour les coiffeurs.
Ça m'étonne de toi, François, parce que on a Xavier qui est coiffeur ici. Tu l'as pas encore fait. Et alors, le poker en ce moment, ça rase.
Tu vois, j'attendais que tu fasses quelque chose.
Mais bon, lui, il a pas de problème de coiffure, lui. Hein.
Non, c'est moi qui me coupe les cheveux. C'est moi qui me coupe les cheveux tout seul pour répondre
à
la question.
Il a la barbe qui est plus longue que les cheveux.
Et moi, j'utilise ma tondeuse au moins, tu vois. On a encore une question pour toi.
Ah bon?
Oui. Non, tu l'as pas, toi. Ah bon,
mais
bah écoute.
Si, je l'ai posé sous une.
Ah, tout balancé dans la gueule.
Ah, si, tout balancé dans la gueule.
Ça,
oui,
c'était parce que je suis très, très, très bien ami avec Paul Testu.
Oui.
Que dès que je
tic-tac.
Vais. Ouais, tic-tac, monsieur, tic-tac sur PokerStar. Et c'était une fois que, comme cette année qu'on était à la WSOP, là, que je faisais les tournois, et il me dit, tu cherches pas à comprendre, hein. Il me disait, tu cherches pas à comprendre, faut tout t'envoyer la gueule de suite, il faut faire des pions parce que t'en as pas assez. Et ça, c'était un terme de polo, et puis chaque fois, maintenant, je dis ça, allez, maintenant, tout dans la gueule. Voilà, on rigole là-dessus chaque fois, et okay. Parce que c'est quelqu'un qui est très, moi j'estime beaucoup, qui est très 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 gentil, qui est un peu désagréable des fois à table avec certaines personnes, mais qui est très marrant à côté du poker, quoi.
Un grand personnage du poker, Paul Testud, hein, c'est certain.
Toi, ouais, tu le connais, connais. C'est un ancien, c'est la même génération. Ouais, aussi, ça. On jouait ensemble dans plaisant. Des parties privées il y a 30 ans avec Paul Testud. C'est un ancien.
Je vous propose que l'on fasse notre communication vers.
Vous avez coupé court pour moi.
Vers Prague. Non, mais attends. L'émission, elle est pas finie encore. Rigole. Je vous propose qu'on fasse une communication avec Prague pour rejoindre Benjo. Et puis on va lui poser quelques questions. Et puis après, on va reprendre le cours de l'émission. Et je vous promets que l'émission avec Xavier et Bruno n'est pas finie, parce qu'on va vous préparer du bonus pour la suite. Allez, à tout à l'heure. Bon, donc on a quelques problèmes techniques pour joindre Benjo. Benjo, on l'a eu au téléphone, mais de manière relativement rapide. On pourra pas vous faire le direct qu'on vous avait prévu, mais toutefois, Benjo, nous dites-vous dire que c'est un super tournoi, puisqu'il y a 555 joueurs qui étaient inscrits aujourd'hui à l'EPT à Prague. Vraiment, vraiment un bel événement. 700 000 euros pour le vainqueur, a priori. Aujourd'hui, les Français encore en place, il y en a pas mal. Lelouch, Abécassis, Koska, Elki, Rémi Bichel qui poste sur le forum de temps en temps. Donc ça va être un bel événement. Alexia, je sais pas.
Alexia encore dedans.
Oui. On me fait signe à la régie.
Un petit signe de Prague, là, qu'apparemment c'est encore bon pour Alexia.
A priori, c'est bon. Ouais. Donc, good luck aux Français qui restent. Hier, ça a été une journée un peu chaude.
Hier, c'était l'hécatombe, carrément, même, on peut dire.
Il y a eu un duel fratricide.
Absolument. Et Thilou, pour son premier EPT, qui se retrouve à la table de Johnny.
Qui rentre tranquillement avec un 8 et un 6 en main.
Et oui, contre Johnny avec paire de 3, il trouve top 2 pair 8-6 contre Broland 3 de Guillaume, et il fait overfull au turn, et ça finit à tapis à la river. Voilà. tu le fais très très bien. Et donc Johnny s'est sorti par Thilou sur la première main, mais malheureusement Thilou n'a pas passé le premier jour non plus. Et c'est le cas aussi de Cuts et de Nicolas Lévy qui ne passe pas le premier jour, donc pas de team Winamax malheureusement à l'EPT de Prague en finale, sauf si je crois Arnaud Materne et Alexia Portal qui sont encore en course et Anthony Lelouch bien sûr peuvent nous faire une perf.
Bon, en tout cas, Vicage Dorasso.
Vicage est la nouvelle recrue, si j'ai bien compris.
Alors attention, j'ai une nouvelle qui tombe sur nos téléscripteurs. Alexia est out, a priori. Absolument, Alexia est out. Super événement. Vous allez pouvoir continuer à le suivre sur www.clubpoker.net et sur WAM, sur le forum de WAM également. Les événements liés à ça. La prochaine fois, on vous garantit, quand il y aura Benjo quelque part, on s'arrangera pour que les problèmes techniques n'aient pas lieu, hein? D'accord, Manu?
C'est pas moi qu'il faut dire ça. C'est un autre notre responsable technique.
Non,
magnifique.
Pas uniquement. on a eu quelques soucis. On en parlait tout à l'heure. On l'a abordé brièvement cette semaine, enfin la semaine dernière. Et pendant qu'on enregistrait l'émission de la semaine dernière, on a vu la disparition d'un grand joueur de poker, on a vu la disparition de Chip Reese. On a nombre de nos invités qui nous ont dit que c'était leur joueur préféré. On a notamment Claude Cohen qui nous a dit le plus grand bien de lui. Moi, la chose que je dirais aujourd'hui par rapport à Chip Reese, c'est que déjà je suis malheureux pour sa famille, pour ses enfants, puisque c'est quelqu'un qui avait 3 enfants. Alors bon, c'est vrai qu'il les laisse pas dans le besoin.
Ils sont grands quand même.
Oui, mais bon, perdre...
C'est des adultes, il a pas de petits-enfants, non.
D'accord, perdre ses parents, c'est quand même quelque chose d'important. Ouais. Donc bon, je suis un peu triste pour lui. Globalement, on en a parlé tout à l'heure, donc disparition d'un grand joueur de poker. Moi, ce que je voulais dire tout à l'heure en parlant de Cheap Reese, qui avait gagné le premier Horse 50 000 à Vegas l'année dernière, est-ce que tu penses qu'il a eu une chance supplémentaire par rapport à toi d'avoir la finale qui avait lieu en Hold'em No Limit, alors que toi t'as dû faire
non, il y a pas de particularité, que ce soit Cheap Reese, que ce soit moi ou Freddy D, vous les autres joueurs de ce tournoi, on est tout à fait capable de jouer un No Limit Hold'em. Ça pose pas de problème, c'est juste c'est plus drôle en horse, mais ça pose aucun problème, non? C'est ni un avantage ni un inconvénient, c'est juste différent.
Jeudi ou cette semaine, il y a un tournoi de horse à la CF.
Hein. Je pense qu'il y a un tournoi de horse à la CF. Je suis sûr qu'il y a un tournoi de horse à la CF.
Dans le cadre de l'EFOP.
Oui.
Ah.
Oui.
Et donc alors, quel conseil tu peux donner aux débutants là-dedans, parce que il y en a plein qui connaissent
d'aller jouer ce tournoi.
D'aller jouer.
Non, mais de jouer à tout, d'apprendre. Le niveau est pas très élevé en horse. Je crois qu'ils vont apprendre des milliers de choses en jouant un tournoi de horse. Il faut aussi savoir et comprendre que jouer à plusieurs jeux t'aide dans ton jeu principal.
Alors justement,
jouer à l'OMA ou jouer au horse, ça aide dans le No Limit Hold'em.
Bruno, par rapport justement au horse, il y a plein de monde, en tout cas sur le forum, qui dit que la structure du horse devrait être revue. Qu'est-ce que t'en penses? Il semblerait que il y a pas le temps de jouer. Il y en a qui demandent, excuse-moi de continuer. Il y en a qui demandent, il y en a qui disent qu'il faudrait avoir au moins le double de jetons pour pouvoir travailler, pour pouvoir jouer de façon cohérente à ce tournoi.
Je comprends très bien la question. Pour te répondre à cette question, je sais qu'il y a une époque sur le forum que je regarde de temps en temps, et puis des fois on m'en parle aussi, je vois Laurent, etc.
Même si tu y réponds pas et qu'on t'en veut à mort, d'ailleurs.
Non, mais j'y réponds dans la réalité, pas sur le forum. On a changé à l'Aviation Club de France un certain nombre de structures depuis quelques mois et quelques semaines. Parce qu'on écoute les commentaires des gens quand c'est nécessaire et quand c'est il y a une justification et que c'est faisable, c'est possible à l'échanger. Donc je te promets que ce soir, en retournant à l'Aviation Club de France tout à l'heure, je verrai Sabine et je lui demanderai de me montrer la structure du horse et je l'analyserai ce soir, et si elle doit être changée, elle le sera.
Bon, et puis cette semaine, on va vous parler encore d'un bouquin. Comme toutes les semaines, on vous parle d'un bouquin. Manu, Poker Pro, ça te dit quelque chose?
Alors c'est Poker Passé Pro, effectivement, c'est le bouquin que j'ai humblement écrit.
Il le connaît bien ce bouquin, c'est toi qui l'as écrit, donc.
Ouais, c'est ça, et on fait une séance de dédicace donc ce samedi 15 décembre au Cercle Gaillon de 15h à 18h. Donc avec François Montmirel aussi pour la sortie de son propre ouvrage Poker Code. Donc bah voilà, venez nombreux si vous l'avez déjà acheté et que vous voulez une dédicace, on vous accueillera. Et sinon, il y a aussi moyen de l'acheter sur place pour ceux qui n'arrivent pas à le trouver. Et je sais qu'il y en a un certain nombre qui le cherchent et qui ont un peu du mal à le trouver en distribution. Donc voilà.
Bon, tu nous dis rien par rapport à ton bouquin.
Bon, on en a déjà beaucoup parlé sur le forum, donc c'est un bouquin qui s'adresse à ceux qui ont de la curiosité ou qui sont tentés par le poker professionnel. Donc, comment vivre, gagner de l'argent et gagner sa vie avec le jeu, toutes les conséquences que ça a sur sa vie personnelle et comment le gérer au mieux. Voilà.
D'accord. Alors, admettons, j'achète ton bouquin, Manu. Je le paye combien déjà?
Alors, le livre coûte 30 € en librairie, voilà.
Ok, et si je me plante?
Pardon?
Si je me plante, on fait quoi avec ton bouquin qui m'a coûté 30 € là?
Je fournis pas de remboursement sur les banquerolles perdues. Hein. Par contre, j'explique comment remonter de zéro quand on est broke, voilà, comment remonter la pente.
Moi, je vois que Xavier est en train de me tendre une pancarte en me disant qu'il a écrit un bouquin, comment redevenir...
Coiffeur,
ouais. Voilà, absolument. Donc, alors Xavier, on fait quoi une fois qu'on s'est
passé? Moi, j'y crois pas trop à tous ces livres, alors je veux dire, j'en ai lu un ou deux. Je sais, j'ai pas lu le tiers, hein. J'espère que j'aurai l'occasion, mais quand j'entends surtout dans les casinos de la Côte d'Azur que les jeunes qui te disent qu'ils viennent tous les jours et qu'ils comptent gagner 200 € par jour au casino et devenir professionnel de ça, je trouve ça lourd, mais très lourd.
Bah justement, ce que j'essaye de dire dans le livre, c'est de mettre un peu de rationalité dans ce discours-là, et d'expliquer à tous ces jeunes qui rêvent un petit peu de gagner des fortunes du jour au lendemain ou de gagner de l'argent facilement, etc., en jouant, que c'est pas si facile que ça.
Ah non, facilement, c'est sûr que non.
Bah certainement. On connaît bien l'expression, le poker, c'est le moyen le plus difficile de gagner de l'argent facile, en gros.
L'huile de coude, c'est le meilleur.
Donc dans les news maintenant des membres du forum, il y a un événement important qui va arriver, qui est malheureusement un petit peu en parallèle avec les FUP qui se déroulent à Paris. Il y a la finale de l'APPT. Et je crois sincèrement que toi, Bruno, t'aurais bien aimé y participer, non ?
Ah oui, j'aurais bien aimé partir en Asie jouer au poker. Je pense que ça va être vraiment un boom, l'Asie. C'est vraiment passionnant. J'aurais bien aimé y aller. Ouais.
Là, la finale, c'est en Australie. Hein.
Oui, c'est l'Asie.
Oui,
c'est l'Asie. L'Australie, c'est l'Asie.
Pacifique.
Non, mais la PPT, c'est Macao, la Corée. Donc, c'est quand même l'Asie. Globalement, c'est ça que s'adresse cette série de tournois. Je sais qu'Isabelle Mercier y est. Donc je souhaite bonne chance.
Donc là, pour l'Asian Poker Tour à Sydney, on a deux membres du club poker qui participent, hein, il faut quand même en parler un petit peu. Donc Al Rock et Dom, qui sont qualifiés, et qui sont qualifiés par Poker Stars, donc bonne chance à eux. Donc news suivante, on passe dans le forum du bar, et alors là, je tiens à diriger ceux qui ne savent pas encore comment meubler leur longue soirée d'hiver, et qui ont envie de faire un petit peu autre chose que le poker. On a un topic qui dure depuis maintenant plus d'un an, donc il a été créé en septembre 2006, et qui en a sa 79e page, donc c'est quand même pas rien, sur les séries télé, donc toutes les séries préférées des membres du club poker.
Et je me demande bien quel est le con qui a pu créer ce nom.
J'en ai pas la moindre idée. Sûrement quelqu'un qui a beaucoup trop de temps pour...
Non mais attends, ça a l'air complètement débile, faire un truc sur les séries télé.
Quelle idée. Donc on y parle des séries...
Qui a fait ça?
Je sais pas, j'avoue que je sais pas, faut aller vérifier sur le forum.
Manu, s'il te plaît, toi qui navigues régulièrement.
Bon, c'est moi, d'accord, ok.
Pour ceux qui le savaient pas, effectivement, c'est Manu. Mais il est plutôt sympa, ouais.
Donc, on y parle de toutes les séries qui cartonnent en ce moment aux États-Unis, Desperate Housewives, Heroes, Prison Break, et Dexter aussi, qui est un peu le chouchou des membres du forum. Donc voilà, n'hésitez pas à venir discuter de vos séries préférées ou de toutes les vieilles séries qu'éventuellement vous pourriez avoir envie de regarder à nouveau.
Il y a également une partie, enfin, tout du moins... Une émission qui montre des parties privées entre personnes qui se jouent à la maison, quoi, on va dire.
Hein, alors en fait, il y a une nouvelle émission qui est sortie aux États-Unis, un nouveau show télé qui s'appelle Ace in the House. Donc c'est un concept intéressant. Bruno, t'as entendu parler de cette émission Ace in the House? Donc le concept, c'est un home game, donc une partie entre amis dans laquelle un pro est invité. Et donc on montre une partie, un sit and go à 6 joueurs, avec donc un pro qui participe face à 5 amateurs qui se connaissent et qui sont copains entre eux. Voilà.
C'est amusant, c'est ce que j'avais fait pour la première saison de Paris Première avec le tournoi des As.
Il
y avait Isabelle Mercier qui était au milieu donc de 5 people qui jouaient pas bien comparé à elle. Elle a sauté, elle a pas gagné. Ah,
c'est un petit peu le même principe, sauf qu'au lieu de people, on a des gens qui sont des gens de la vie de tous les jours. Et donc là, cette première émission a comme invité Mike Matusow. Et voilà, c'est assez marrant. Bon, le poker est pas d'un niveau exceptionnel, mais c'est vrai que c'est assez drôle de voir comment Matusow essaie de s'adapter et de faire de faire une lecture a priori avec rien que les vidéos sur les vidéos des interviews de ses futurs adversaires pour dire alors lui c'est probablement le meilleur joueur de la table, elle je sais déjà exactement comment je vais la piéger, etc. Enfin bref, il se fait tout un cinéma là-dessus. Donc l'émission, bon, le poker est pas de très haut vol, mais l'émission est sympathique. Voilà.
La main du jour, Manu, tu vas nous parler de cette nouvelle main du jour qui se déroule dans le cadre de Poker After Dark.
Alors tout à fait. Cette semaine, donc j'ai choisi à nouveau une main de Poker After Dark. On est dans la saison 2 de Poker After Dark. À chaque fois pour chaque semaine de Poker After Dark, c'est une semaine à thème. Et la thème de cette semaine, c'est international, c'est-à-dire ce sont que des joueurs qui ne sont pas américains. Donc Poker After Dark, je rappelle, un sit and go où tout le monde commence avec 20 000 chips, les niveaux à 100-200, no limit hold'em. 6 joueurs, winner take all. Donc là, nous sommes encore au premier niveau. Tous les joueurs sont encore aux alentours de leur stack de 20 000, à peu près. Et donc, je vais résumer l'action. Alors, UTG, Bradbus, Limp avec Perdas pour 200. Donc pour probablement préparer un piège. Gus Hansen, juste derrière lui, a paire de 9 et raise à 1100. David Benjamin, derrière, jette sa main. Patrick Antonius au bouton, suit avec Dame Valet de la même couleur. Daniel Negreanu passe au small blind. Et Marco Traniello, qui est au big blind, suit avec paire de 10.
Il y a 3 paires sur le tour, là, déjà.
Voilà, donc on a 3 paires déjà sur cette première main, plus Patrick Antonius. Et donc on revient à Bradbus qui avait limpé au départ avec sa paire d'as. Et là, tout le monde s'attend évidemment au classique limp re-raise avec paire d'as. Et pas du tout. Bradbus décide de suivre juste les 900 supplémentaires avec sa paire d'as. Et se retrouver donc à 4 joueurs au flop avec sa paire d'as. Donc premier coup assez intéressant. Le flop arrive, 8, 5, 2, 3 couleurs différentes. Donc personne ne touche rien. Marco, qui a une paire de 10 donc sur ce flop-là, mise 2600, donc dans un pot qui fait déjà presque 5000. Brad, avec sa paire d'as, se contente de suivre. Et là, Gus Hansen réfléchit un bon moment et décide de tout envoyer, faire tapis à 18700 avec sa paire de 9. Donc Patrick Antonius, avec son Dame-Valet qui n'a rien touché, évidemment, jette sa main. On revient à Marco Traniello, qui réfléchit un petit moment aussi, mais qui a un fold assez facile avec sa paire de 10, il jette sa paire de 10. Et on revient à Bradbus, qui call tout de suite en disant « Gus, j'espère que t'es là que paire de rois. » Voilà. Et donc, Gus monte sa paire de 9 tout penaud, et les cartes tombent, et Gus n'est pas aidé par un 9 ni au turn ni à la river, donc Bradbus remporte le coup. Donc voilà, alors... Xavier et Bruno, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette main que moi je trouve particulièrement intéressante?
Moi déjà à 4, j'aurais pas joué comme ça.
Je suis d'accord.
Voilà. Alors la paire d'as, limpé, 3 joueurs en dans vous derrière.
Trop dangereux.
Il est d'accord qu'il n'aurait pas joué comme ça, mais il n'a pas dit sur quoi il serait d'accord. Donc continue.
Non, mais je vais pas prendre déjà, le risque de voir arriver un ouvreur contre trois joueurs, quoi.
Ouais, il y a deux choses dans cette main. Déjà, est-ce que le limp re-raise avec paire d'as à 6 joueurs, vous êtes fan?
Non, je suis pas fan du limp UTG, déjà. Je suis pas fan du limp UTG, mais encore une fois, ça dépend vraiment, du joueur qui joue, parce qu'il faut adapter un style par rapport à une image. Donc, quand on n'est pas un joueur qui relance, on va dire, régulièrement, cacher sa main, ça s'explique mieux, parce que si Bradbus, qui peut-être est moins agressif, qui joue moins de coups de manière différente de Gus, de relancer, ça peut éventuellement éveiller les soupçons des joueurs qui suivent. Maintenant, si c'est Gus, ou sans vouloir me comparer, si c'est moi, la relance est absolument automatique et obligatoire, parce que relancer en UTG avec deux as, ça veut pas dire que j'ai deux as. Gus Hansen qui relance en UTG, ça veut pas dire qu'il a deux as. Certains du tout, même.
Surtout pas à 6 joueurs. En plus, ouais.
Donc non, je suis pas du tout fan du limp en UTG. Ça me plaît pas. Ça peut très vite amener à un truc stupide, genre tout le monde limp, où il y a 4 joueurs limper, et puis il y a un flop zarbi, et soit on se fait raser, soit on gagne rien. Non, mais soit on se fait raser, soit on gagne rien. Si flop c'est roi 4-2, coup, bah c'est pas que ça va, il va rien gagner avec. Mm-hmm. Il va pas gagner une thune, parce que tout le monde va se dire, bah tiens, il attaque, ou il mise, ou il se relance, il a un roi. Et donc tout le monde va jeter, les 2-10 vont jeter, valet dame va jeter, 2-9 vont jeter. Donc on perd, c'est pas l'histoire de perdre le coup, le problème de limper avec deux as. Le problème c'est qu'on risque de ne rien gagner avec, en limpant. C'est bien pire, on n'imagine pas immédiatement ça. Mais très souvent, quand le flop arrive, bah, quand on va vouloir attaquer le flop, soit on risque en effet de tomber, il y a un 9 ou un 10 au flop, voire, de paire valet dame ou quinte avec valet dame, et donc on peut perdre beaucoup. Mais on peut surtout, et dans le plus grand nombre de cas, ne rien gagner avec, si une dame se retourne au flop, on peut éventuellement ne rien gagner parce que le kicker de Antonius n'est qu'un valet. Donc il y a plein de cas où avec deux as, on gagne rien en limpant et on prend le risque de perdre beaucoup. Donc j'aime pas du tout ce jeu de limper. Et puis alors j'aime encore moins le fait de coller avec premier à parler UTG, enfin deuxième à parler parce qu'il y aura la grosse blinde Marco Triennello qui sera avant, mais on va dire deuxième à parler avec deux as quand il y a quatre limpers. Enfin quatre limpers, c'est pas limper, Gus relance, mais ensuite on se retrouve avec des limpers puisqu'il y a payé. Non, j'aime pas du tout ce truc, ni parce que on peut perdre, enfin je l'aime pas pour deux raisons. D'abord, un, on peut perdre beaucoup, et deux, on peut ne pas gagner beaucoup. Moi, je préfère des coups où on peut gagner beaucoup sans perdre beaucoup. Je préfère nettement ce genre de coups. Donc non, je suis en désaccord personnellement total avec cette stratégie de jouer ces deux as de cette manière-là.
Xavier,
personnellement,
qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, ben moi, au début, je les ai tellement perdus que maintenant, je joue plus comme ça.
D'accord.
J'ai trop souffert. On me disait quand t'as une paire d'as que t'es juste après les blindes, tu colles, t'attends de voir. Bon, au début, je savais pas trop jouer, que je cherchais 50 explications. Et... je crois les explications. Bon, déjà, c'est au choix du joueur, comme tu sens la table. Parce que si tu sais qu'il y a des attaquants, tout ça, que t'as toujours les mêmes qui attaquent.
Ah bah là,
c'est
là,
sûr que si c'est que
là c'est le cas avec Gus Hansen, oui, David Benjamin, oui, et Patrick Cordonis au bouton, voilà, on peut s'attendre à une relance probable.
C'est très important en effet de savoir qui se trouve à la table, voilà. Et à mon avis, d'autant plus parce que Gus Hansen est derrière et Antonius sont est derrière, j'aurais eu tendance à relancer. Parce que si je relance Under the Gun, il est fort probable que je me retrouve avec une surrelance de Gus dans ce coup-là, ou une autre surrelance de Marco Traniello. Je peux emmener du monde, je peux faire... Enfin, je veux dire, quand on est en début de tournoi, on est bien en début de tournoi. Ils ont environ 20 000 chacun, etc. Mmh. On peut pas gagner le tournoi sur un coup, c'est impossible. On peut pas gagner un tournoi, il faut bien savoir ça dans les tournois. On peut pas gagner un tournoi en 10 minutes, en 1 heure, en 2 heures, etc. Un tournoi, c'est beaucoup plus long que ça. Donc là, quel est le but de Brad Booth dans ce coup-là? C'est pas de gagner le tournoi, là. C'est d'essayer de ramasser un maximum de pions contre un joueur, éventuellement contre deux, mais on va dire un. Donc le truc, c'est d'arriver à sélectionner une main en face de soi qui peut éventuellement être amenée à perdre beaucoup de jetons sur ce coup-là. En relançant Under the Gun avec deux as, il aurait très probablement trouvé Gus Hansen qui aurait ou payé ou sur-relancé avec deux neufs. En tout cas, si Gus s'était simplement contenté de payer, il est clair que Marco Traniello aurait sur-relancé, parce qu'il est... Enfin, s'il joue bien, c'est vrai que Marco Traniello, il joue pas mal, mais c'est pas le même niveau que Gus Hansen de loin s'en faut, hein, ni Patrick Antonius. Il aurait sûrement sur-relancé, parce qu'il peut pas se permettre de parler le premier avec deux joueurs derrière qui ont relancé et qui ont payé avec 2-10. Parce que dès que valet, dame, roi ou as apparaît, on est dans la merde. Donc on peut pas jouer comme ça. Il est obligé ou jeter sa main ou de se relancer.
Il joue probablement sa paire de 10 qu'une petite paire en fait à ce moment-là. Il attend probablement que
flopper un
10.
Je n'aime pas du tout la manière dont se passe ce coup. Je joue pas du tout comme Brad Booth dans ce coup. Ça me plaît pas. Ça ressemble plus à un jeu d'internet, ça.
Et alors, et post-flop, qu'en pensez-vous post-flop? Marco Traniello qui flop donc une overpair, qui mise la moitié du pot pour commencer, et Brad Booth avec sa paire d'as derrière se contente juste de suivre encore sur bon ce flop qui est assez anodin, 8-5-2 sans tirage couleur, mais il suit juste avec sa paire d'as. Pourquoi? Pour voir, attendre de voir ce que le relanceur Gus va faire pour.
Je crois qu'il suit pour deux raisons. D'abord parce qu'il trouve bizarre que Marco Traniello mise sur ce flop. Vraiment, il trouve bizarre. Il connaît Marco Traniello. Il sait qu'il a payé en big blind, donc il va parler le premier. Donc il a payé une relance après que trois joueurs aient payé, il a limpé, et d'un seul coup sur un flop comme ça, il se met à miser. Donc il est très très probable, probable que Marco Traniello ait une overpair.
Ouais, ou une très bonne main quoi qu'il arrive, s'il attaque dans trois joueurs.
Mais précisément, une overpair. Mm-hmm. Parce que s'il a touché un brelan sur le flop, il va probablement pas attaquer le premier. S'il a deux grosses cartes, il va probablement pas attaquer le premier. Même s'il avait As 2 ou As 5 ou As 8, il n'aurait pas attaqué en premier. Il serait contenté ou de payer ou de surrelancer quelqu'un qui mise, en pensant qu'éventuellement il a pas une grosse main. Donc en aucun cas il ne peut attaquer ce coup autrement qu'avec une overpair. Donc à partir du moment où Marco Traniello attaque avec une overpair, eh ben il sait Brad Booth que son overpair à lui est meilleur que l'overpair de Traniello, bien sûr, parce qu'il a deux as.
Il se le plaît face à Traniello. Quoi.
Là sur ce jouer comme ça a été joué en premier, il peut imaginer ça parce que ce qu'il imagine très probablement, c'est que derrière, Egos et Patrick Antonius vont passer dans ce coup.
Ah, tu sais que tu nous impressionnes terriblement, Bruno. Oh, attends, sérieusement. À mon avis, tu devrais faire de la télé pour commenter.
et peut-être jouer au poker aussi, non?
Attends, ça, je sais pas encore si tu as le niveau. Mais franchement, là, sur le coup, l'analyse de la main, parce que là, tu vois rien.
Ouais, mais bon, Gus qui fait taper derrière.
Alors voilà, venons-en à ça, parce que ça, c'est quand même
c'est incroyable. Quand même, hein.
Gus qui avec sa paire de neuf face à cette action-là, qui sur-relance ta tapis en overbet par-dessus, qu'est-ce que t'en penses?
J'aime pas du tout. Mais je pense que Gus est un excellent joueur, qui est un joueur qui a du génie, qui a découvert beaucoup de choses et qui a surtout rendu compréhensible et intelligible à tous l'importance des mathématiques dans le poker. Mais Gus Hansen est un excellent joueur. Maintenant, comme tous les excellents joueurs, il n'est pas
infaillible.
Infaillible, c'est ouais. Voilà le bon mot. Il n'est pas infaillible. Sur ce coup-là, je trouve qu'il manque de lucidité et qu'il ne peut pas. Il ne peut pas évidemment penser ni qu'il a la main gagnante, ni qu'il va faire passer les deux joueurs sur ce flop. J'ai du mal à le penser et à le croire. Je pense que c'est une mauvaise analyse de sa part. Il y a automatiquement une overpair sur ce flop. Et comme il a la plus petite des overpairs, on est d'accord, il y a un 8 sur le flop. Donc il a 2-9, il a la plus petite des overpairs.
Ce risque est considérable.
Attendez, c'est quand même.
Bon. Il dit au moment où il fait tapis, dans la vidéo, il dit très clairement, bon, j'espère que j'ai fait un bon read, et il fait tapis à ce moment-là.
Ah, il a fait un très mauvais read.
Les amis, bravo, vraiment génial. On a passé une excellente soirée avec vous. Il y a Manu qui me fait des grands signes tout à l'heure. Là,
ouais, parce que je suis impatient de faire le questionnaire de Proust adapté au poker.
On a passé une excellente soirée. On repasse dans la limite de notre jeu normal à nous, qui est le questionnaire de Proust adapté aux joueurs de poker. Bruno, on rentre dans la philosophie.
Allons-y.
Allez, Manu.
Alors, on va poser les questions qu'on pose d'habitude donc à chacun de nos invités. On va vous les poser à tous les deux, Bruno et Xavier. Donc, Bruno et Xavier, est-ce que vous avez une main de départ au Texas Hold'em No Limit favorite?
Bruno. Xavier, 10 et 7, moi.
10 et 7, ouais. D'accord. Bruno?
Non.
Pas de main, d'accord.
Non.
Je relance toujours 10 et 7.
Ok. Est-ce que
mais juste pour préciser très court, quand je jouais en étant plus jeune, donc avec moins d'expérience et moins d'habitude, j'aimais bien 7 et 9. Mais d'accord. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens.
Aujourd'hui, ça n'a pas de sens.
Enfin, je veux dire, ça n'a jamais de sens d'avoir une main favorite. Mais je veux dire, aujourd'hui, alors, j'en rends vraiment compte. Alors, je peux juste pas en avoir parce que ça me vient pas à l'esprit.
Moi, c'est juste parce que ça fait 17 juillet, c'est pour ça.
D'accord.
C'est 17, ouais.
Est-ce qu'au contraire, donc, une main que vous n'aimez pas jouer? Ou est-ce que c'est la même chose, ça n'a pas de sens?
Non, ça n'a pas de sens.
D'accord.
Non.
Là, par contre, non, pas de problème pour tout jouer.
Non,
okay.
Non, ouais.
Très bien. Bruno, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes particulièrement voir se produire à la table?
J'aime bien jouer dans des conditions où les gens n'ont pas de pression financière, donc en cash game, et qu'on peut vraiment plaisanter, rigoler et jouer notre meilleur poker, mais sans souffrance, sans difficulté. Ça, c'est vraiment ce que j'aime le plus. C'est jouer avec des amis, oui, mais pas au sens où on l'entend dans la vie civile, des amis du poker, c'est-à-dire des gens avec lesquels je joue régulièrement, des gens des high stakes mix game, et qu'il n'y ait pas de pression à la table, qu'il n'y ait pas de personne qui soit en train de réellement gagner sa vie ou dans une difficulté financière. Donc il y a vraiment une tranquillité à la table, et ça c'est vraiment il y a pas mieux, quoi. Je veux dire, il y a pas mieux, et j'allais dire même le sexe c'est pas mieux. C'est
d'accord.
Vraiment jouer avec des potes à des jeux qu'on aime dans une ambiance.
Attends,
c'est y a pas mieux, vraiment y a pas mieux.
Le sexe, t'as raison.
Moi, je préfère le sexe quand même.
Mais vous c'est le poker. Vous êtes en face de moi, mais je suis à côté de Manu B, donc le sexe avec Manu B, je peux vous dire c'est un peu
François,
dur.
François ne dévoile pas notre vie privée en public, voyons.
Bon, et toi
Xavier, donc quelque chose que tu aimes voir se produire à table?
Ouais, c'est-à-dire qu'au début que...
Ou sur la table.
Non,
hein.
Au début que je suis allé à la CF...
Ou sous la table.
Parce que moi j'ai connu que la CF vraiment en début, et il y avait toujours des bonnes ambiances à table. Et je trouve que la nouvelle jeunesse de joueurs là...
D'accord.
Ils jouent beaucoup leur salaire sur les tables.
Ah, c'est un peu ce que dit Bruno, un peu de pression financière
c'est
derrière.
Pareil,
et...
La dernière fois que je suis monté à la CF, j'ai vu une fille partir en larmes. Ça m'a choqué un peu, tu vois. Je pense qu'il y a une mauvaise atmosphère maintenant sur les tables.
Il faut pas exagérer, il n'y a pas une mauvaise atmosphère.
Non, il y a beaucoup d'énervement
sur les tables. mais il y a des fois des atmosphères qui sont pas celles qu'on aimerait voir.
Il y a beaucoup de gens.
Mais tu sais,
c'est très 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 bien dit. Non mais je crois que Bruno a raison sur le coup. Je crois que tu as raison aussi, Xavier. Il faut faire attention. Il faut pas faire n'importe quoi. Voilà.
Moi, juste un petit conseil à ceux qui vont écouter que il faut pas se noyer.
Voilà.
Il faut pas se noyer. Il joue, comme on dit chez nous, à ras les pâquerettes. Ils pensent que d'aller dans un casino ou d'aller en cercle, il faut faire attention à ça. Il faut bien gérer le jeu. Et c'est que maintenant, il y en a qui ne gèrent plus ça, la nouvelle jeunesse. Quoi.
Voilà. Alors maintenant, au contraire, est-ce qu'il y a quelque chose, Bruno, que tu détestes voir se produire à table ?
Je pense que, de très loin, la chose que je déteste le plus, c'est les gens qui ont un mauvais comportement d'une manière générale avec les autres joueurs, avec mais principalement avec le personnel, que ce soit les croupiers, que ce soit les chefs de salle, que ce soit les serveurs des boissons ou les directeurs de tournoi. Je crois que c'est la chose qui m'horripile le plus, qui m'agace le plus, qui me hérisse le plus. Ça fait vraiment vraiment chier.
D'accord.
Et toi, Xavier,
Ce que j'aime pas trop des fois, c'est comme il y a certains joueurs qui parlent croupier, voilà, comme il disait Bruno, je trouve qu'il y en a qui manquent un peu de respect, ils sont là à donner les cartes pendant des heures, et puis ils se font harceler des fois parce que malheureusement ils tournent pas la bonne. Voilà, c'est juste ça, quoi. D'être un peu plus respectueux avec ceux qui travaillent aussi.
Bruno, ton expression favorite quand tu perds un gros pot. Enfin, favorite. On peut pas avoir une expression favorite quand on perd un gros pot, mais qu'est-ce que tu dis quand tu perds un gros pot?
Je pense que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est fucking hell.
Tiens, c'est intéressant. C'est une expression en anglais qui te vient à la tête en premier.
Fucking hell. Ouais. La semaine dernière, on avait Elki qui nous disait
Sick life.
Et toi, ouais.
Moi, j'ai pas d'expression, hein. C'est surtout quand je me refais un peu le coup, puis je me tais pendant 2 minutes parce que j'ouvre pas beaucoup la voix souvent à table, quoi.
Et Bruno, à contrario, quand tu gagnes un repos, est-ce que t'as une expression favorite?
Non, à moins de cas particuliers, parce que c'est un copain et que je peux le charrier ou un truc comme ça, il y a une raison majeure, mais d'une manière générale, quand je gagne un pot, je me fais petit.
Xavier ?
Ah, moi non, il y en a beaucoup qui la connaissent. Hein. C'est quelle chaleur.
Okay. Bruno, le joueur célèbre qui t'inspire le plus ?
Il y en a plusieurs.
Un seul.
C'est un seul, hein.
Un seul. Le plus.
Attends, pour un pro comme dur, Bruno, non?
C'est dur. Un seul. Il y en a pas un qui est au-dessus des autres. Il y en a plusieurs. Il y a Chip, dont on a parlé. Carlos Mortensen. Phil Ivey, bien sûr. Barry Greenstein. Là, je suis en train de te citer non pas ceux qui me, mais ceux qui sont parmi, je considère vraiment une classe au-dessus. Parmi les meilleurs joueurs du monde, ouais. Alan Cunningham, j'ai pas précisé non plus Alan Cunningham. Doyle, sans doute, par le passé, sans doute plus au même niveau aujourd'hui, bien que ce soit encore un très grand joueur, bien sûr. Et pour parler d'un Français, David Benyamin, qui est un pur génie du poker, absolu génie du poker.
David, comment tu as dit? David
Benyamin,
attends, il vient d'où celui-là?
Il y en a qu'un en France, hein, qui est vraiment un génie du poker. Le problème, c'est qu'il n'a pas de, il lui manque d'autres qualités à côté pour vraiment faire une place dans l'histoire. Je sais pas, peut-être en vieillissant, il va réussir à avoir ça.
Tu nous l'amènes prochainement?
Ah bah, il est très difficile à emmener quelque part, Benjamin. Il a du mal à s'emmener lui-même quelque part, sorti de son écran d'ordinateur et de ses boîtes de pizza, sans pas beaucoup de sa chambre.
Et toi, Xavier, le joueur qui t'inspire le plus?
Moi, j'en ai pas. Je regarde un peu les émissions, tout ça, et c'est des grosses figurines, tout ça, hein, si tu regardais.
Non, mais c'est des grosses figurines.
Non, mais je veux dire.
C'est l'expression que je trouve amusante.
C'est sympa. Moi, il y a quelqu'un que je me regarde à regarder jouer quand je monte et quand je suis avec lui, c'est Anthony.
Anthony Lelouch. Ouais. D'accord.
Moi, je me régale à le regarder jouer.
C'est un bon joueur, tu le connais aussi, Bruno.
Anthony, c'est probablement le meilleur jeune joueur français. Enfin, c'est pas probablement, c'est, bon, a priori, de ceux que je connais, on peut pas connaître tout le monde, mais enfin, a priori, c'est le meilleur joueur français actuel vivant en France et jouant en France, puisque Benjamin est parti vivre à Las Vegas. Il est jeune, il a aussi beaucoup de choses à apprendre. Comme toujours, ces très grands joueurs de poker n'ont rien à perdre et n'ont peur de rien. Pour y arriver, faut vraiment avoir peur de rien.
Anthony.
Ouais, voilà. Anthony, ouais.
Bruno, si tu ne jouais plus au poker à partir de demain, à quoi tu occuperais ton temps de libre?
Oh, j'ai des millions de choses à faire quand même. Moi, j'ai pas faire la liste là, mais ça serait méchant si je jouerais plus au poker. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que je ne joue plus au poker. Enfin, si, il y a des choses, hein. On peut perdre la vue. On peut encore qu'on a vu un aveugle jouer dans les World Series, mais c'est pas très facile. On peut. Qu'est-ce qui pourrait me faire arrêter de jouer au poker? Je sais pas.
On parle d'un cas hypothétique. Le poker disparaît du jour au lendemain. Qu'est-ce que tu fais? Voilà.
La musique est une grande passion pour moi, mais
la pelote basque.
Ça veut dire qu'il y aurait plus d'autres jeux, parce qu'il y a d'autres jeux, tu sais, moi, les échecs, j'ai joué très 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 longtemps. Le backgammon, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup aussi.
La musique et les jeux.
Le tarot, mais je mets bien sûr en avant de toute chose, encore une fois, c'est même si ça fait un peu travail, famille, patrie, mais oui, je mets d'abord ma femme et mes enfants en premier de tout, quoi. C'est la seule chose pour laquelle je peux quitter une table de poker finalement.
Bon. Et toi, Xavier?
Difficile, hein. Moi, je dirais que le seul truc qui pourrait me faire arrêter le poker, ce serait peut-être d'avoir une vie de famille, tu vois. Ce que je rêve le plus en ce moment, peut-être.
D'accord.
Voilà, parce que.
Ouais, on se retrouve finalement.
Non, mais c'est vrai, j'ai dit que préférais m'investir là-dessus, quoi.
Voilà. Alors, on a sauté la question précédente, qui est pourtant, moi, ma préférée dans le tas. C'est est-ce qu'il y a un joueur célèbre qui te tape particulièrement sur les nerfs?
Est-ce qu'il y a un joueur célèbre qui me tape particulièrement sur les nerfs?
On se fait pas que des amis avec le poker radio aussi.
Non, mais j'ai du mal à trouver.
Non, David Benjamin, t'as pas le droit de le dire, tu as dit.
Ah non, il me tape pas du tout sur les nerfs. Je l'aime beaucoup, c'est un garçon adorable. On peut juste pas compter sur lui, c'est tout. Parce que il a que le poker dans la tête, mais non, je cherche. Non, en fait, il y a très peu de gens que je n'aime pas dans la vie d'une manière générale. Il y a très peu de gens qui me tapent sur les nerfs. Il y a des choses qui me tapent sur les nerfs, mais je les oublie assez vite. Je suis pas rancunier du tout. J'ai pas de mémoire de ces choses-là. Non, il y a pas de joueur qui me tape sur les nerfs.
Xavier?
Bruno Fitouzi.
Merci Xavier.
Réponse intéressante.
Bon, non, Tony G, je dirais.
T'es
lourd. Ouais, lourd. Des fois, c'est lourd. J'ai vu à la CF.
Mais attends, c'était trop drôle.
Et enfin, dernière question du questionnaire, Bruno. Bon. Si tu pouvais poser une question à un joueur de ton choix, vivant ou mort, quelle serait la question et à qui la poserais-tu?
Waouh.
Bon, qu'est-ce que c'est dur. Il y a de plus en plus de joueurs morts là.
Je pense que je sais pas quel. Voilà. D'abord, il y a deux réponses. D'abord qui et ensuite quelle question.
Ouais.
Alors qui? Je pense que je regrette de n'avoir jamais joué, jamais. Je l'ai croisé en fait, mais sans savoir que je le croisais. C'est-à-dire qu'en fait, bon, donc je l'ai jamais rencontré, je lui ai jamais parlé. C'est Stu Hanga.
Réponse qu'on a souvent. Ouais.
Voilà, j'ai jamais vu, je lui ai jamais parlé. Je pense que j'ai parlé presque à tous les autres. Si je les connais tous, si j'avais une question à leur poser, je leur aurais posé déjà.
Ouais, c'est un peu le problème avec toi, malheureusement.
C'est un peu le problème. Non, mais Stu Hanga, non. Ouais, il est mort avant, hélas. Et quelle question j'aurais bien posé probablement quelque chose du type est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je peux faire pour que t'arrêtes de prendre cette putain de drogue?
D'accord.
Peut-être ça serait ça ma question à Stu Hanga. Qu'est-ce que je peux faire pour que t'arrêtes de prendre cette putain de drogue?
Ça me semble une bonne question.
Ok.
Une bonne question.
Xavier, est-ce que t'as une réponse pour nous?
Réponse, j'ai pas côtoyé beaucoup de grands joueurs, moi.
Mais hein. T'en as un,
justement. Et de décédés non plus. Mais bon, c'est vrai qu'on a quand même l'effigie du poker qui est marquée sur, comme il disait Bruno, Snoogart, que ça aurait dû être quelqu'un à connaître quand même.
D'accord.
Voilà.
Je voudrais rebondir là-dessus. Manu, toi qui la poses toutes les semaines cette question, si tu avais une question à poser à un grand joueur, vivant ou mort,
moi, si je répondais à cette question, ma question c'est très simple, je la poserais à Annette et je lui demanderais s'il veut bien m'épouser.
T'as
des bons goûts, hein.
Non, mais attends.
Je suis très intéressé financièrement.
Il a des bons goûts, mais elle a de bons résultats par ailleurs.
Donc, on peut lancer notre dernière rubrique.
Notre concours de Poker Face.
Notre concours de Poker Face, mondialement connu et surtout vachement apprécié. Habituellement, c'est toi qui commences.
Alors ouais, la tradition, c'est moi qui commence. Donc je fais. Le principe, c'est qu'il faut faire une Poker Face, tout simplement. Et puis bah, vous payez, vous payez pas. Voilà. D'accord.
Ah, d'accord.
Prêt ?
C'est ça ta Poker Face ?
Oui.
D'accord.
Je paye pas. Tu payes pas ?
Non.
Donc tu jettes ?
Ouais.
Alors que t'avais relancé avant.
Ah, tu m'as pas donné tous ces détails là.
Tu me demandes s'il a la tête d'un mec qui a du jeu ou pas. Qui a pas de jeu.
C'est ça, ouais.
Il a la tête de quelqu'un qui a du jeu.
Bon. Alors j'essayais de faire passer l'impression contraire, je me suis planté. Bon.
Non ! Mais non ! Ah oui, oui,
oui. Je me suis planté, je voulais
donc,
que tu
aies du jeu.
Mais oui, je voulais que tu
donc t'as du jeu.
Et j'ai essayé d'aller au niveau au-dessus, de faire une.
T'as du jeu, c'est ça.
Donc,
voilà.
Non,
bon, je suis fait. Bruno, tu nous envoies le tapis et puis après, c'est à nous de décider si on te paye ou pas là.
What do you have? What do you have?
I don't know.
What do you have? And how can you think about that? How can you think about it?
Alors attends, c'est intéressant, c'est une poker face interactive.
Ah ben, je joue interactif. Hein, au poker, à un certain niveau, on joue tous interactif. On parle, obligé.
Ouais, moi aussi, je parle. Ouais,
d'accord.
J'arrive pas à...
Et même,
alors là, j'avais quoi? J'avais une main ou j'avais pas une main? Je bluffais ou j'avais pas une main?
Pour moi, tu parles trop pour entendre la parole.
Là, tu nous demandes ce qu'on a, nous. Bon, c'est pas encore
pour
ce
moi,
que
tu as.
Ah mais non, mais la question, c'est ça. Est-ce que tu payes ou pas? J'ai relancé, j'ai fait. Est-ce que tu payes ou pas?
Moi, je pense que t'as une main. Tu parlerais pas de manière aussi détendue.
Je réponds ou...
Ah non, attends, parce que moi, je suis en train de te regarder, là, sur le coup... Comme je te vois à la télé, etc., je me dis...
Il a rien,
je paye, moi.
J'ai rien.
Ouais.
D'ailleurs, j'ai planté encore. Enfin, je suis dernier au classement.
Double
place.
Broc pour l'instant, double
bon,
broc. Non, ouais, grâce.
Xavier,
à moi, il faut que je me mette dans la tête si j'ai quelque chose ou non, alors.
Ouais, c'est ça.
Bon, d'accord, ok. Mais moi, c'est tout des big des fois.
Eh, vas-y.
Allez.
Alors là, je relance, là. Je me tapis dans la gueule, là.
Attends, vu la glotte, comment voilà, elle remonte,
moi, mon impression, c'est qu'il a quelque chose, mais il a qu'une peur. C'est que je lui envoie ma boîte dans la gueule.
Ouais, il a peur.
Il a quelque chose et maintenant il est dans la merde si je lui envoie parce qu'il sait plus quoi faire, parce qu'il a une vraie main, mais pas suffisamment forte. Donc voilà ce que je pense.
Non, parce que c'est moi qui a fait tapis.
Ouais. Ah, tapis t'as fait ?
Eh oui, il a mis.
Tu veux pas avoir cette tête-là en grand tapis ?
Hein ?
Tu veux pas avoir cette tête-là en grand tapis ?
Je te jure.
Parce que j'avais eu une fois le. Il y avait un mec qui avait fait une connerie qui disait faites attention si la goulotte elle monte qui fait cavaler
la glotte
s'il regarde à gauche, s'il regarde à droite, s'il regarde en bas, s'il regarde en haut. Et tu sais que je m'étais servi de ces conneries au début pour tout ça. Et des fois tu regardes les mecs, ils essayent de te regarder la gorge, tout ça. Alors des fois quand je veux te payer, tu sais, je fais
la veste pas d'avaler,
tu sais,
j'ai plus de salive quand j'ai
dit. Il travaille à double niveau, c'est le double niveau du tapis envoyé. Bon allez, à moi maintenant, je vais me la faire.
Rolling. C'est très difficile, je pense que je passe. Ouais. Mais déjà, d'une manière générale, tu veux que je te dise un truc, je suis un peu. Quand un joueur.
Débutant, je dis pas débutant.
Mais bon, je te remercie.
Voilà. quand un joueur, on va dire. Ou amateur, on peut dire amateur, t'es pas professionnel.
Ah, absolument, voilà. Débutant.
Quand un joueur amateur envoie, d'une manière générale, je ne paye pas.
Il y a de meilleurs moments à la table. Il n'y a pas besoin de payer. Payer, c'est pas. Tu sais, je le dis tout le temps dans les épisodes de Direct Poker. Payer, c'est pas trop mon truc, moi. J'aime bien envoyer ou passer, mais payer, c'est pas trop mon truc. C'est pas ma cam.
En tout cas, Xavier, Bruno, ça a été un vrai plaisir de vous recevoir. On veut vous voir bientôt.
Et nous, on s'est régalé ici. On a vraiment bien rigolé.
Manu, c'est très cool.
A plus. Salut,
merci.
Bon.
À
bientôt.
Et merci à Laurent, surtout.
Merci à tout le monde.
Salut.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Jouez pour le plaisir et avec modération. Apprenez à fixer vos limites. Pour rappel, les jeux d'argent sont interdits aux moins de 18 ans. N'initiez pas vos enfants à des jeux réservés aux adultes. Si vous pensez avoir un problème avec le jeu, appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.